Avant de lancer l'excursion, on tenait à vous dire que Tête Beaulieu est soutenue par la Maïf, assureur de référence des tiers-lieux en France.
Pourquoi ? Parce que comme nous, la Maïf souhaite mettre en lumière les belles initiatives de nos territoires, en local et au national. Et ensemble, nous sommes convaincus que les tiers-lieux sont des solutions concrètes pour faire bouger les lignes et inventer une société plus solidaire, collective et durable.
Retrouvez plus d'infos sur la protection et l'accompagnement de la Maïf pour tous vos projets, vos lieux, dans la bio de cet épisode. Et maintenant, jingle !
Vivre ici, c'est dur de savoir ce que ça veut dire. Est-ce que ça veut dire dormir dans un endroit ou est-ce que ça veut dire y passer ses journées ? Ben, on ne sait pas trop.
Si j'ai besoin de me ressourcer, c'est ici que je viendrai me promener un coup le soir, le matin. Puis il y a toujours des choses à faire ici. On trouve toujours de quoi s'occuper un peu.
C'est un sas de décompression, en fait. Un endroit on croirait la campagne à la ville, en fait.
Salut la compagnie, on est très contente de vous retrouver pour ce troisième épisode de la saison 3 de Tête Beaulieu.
Vous le savez, pour cette saison, l'esprit c'est de faire un pas de côté. Alors on a eu envie de découvrir et même de redécouvrir les lieux qui ont ou auraient pu inspirer de près ou de loin le mouvement des tiers-lieux.
En gros, raviver un peu les mémoires, quoi. Aller à la rencontre aussi bien de lieux du social, de la culture, de l'éducation populaire et de l'écologie.
Et aujourd'hui, on prend la route de la ville de la moutarde par excellence. Oui, oui, vous avez bien entendu, on part à Dijon.
Et on vous donne rendez-vous à quelques centaines de mètres du vieux centre de la ville, en plein cœur d'un quartier vraiment, vraiment pas comme les autres.
J'espère que vous êtes prêtes et prêts à voyager au beau milieu d'un labyrinthe sinueux et merveilleux.
Ouh.
Entre bateaux pirates, terrains de BMX, jardins potagers, granges roses et caravanes parsemées par-ci par-là.
Bienvenue dans le monde improbable du quartier libre des Lentillères, chers amis. Ça vous met sur la piste ?
Pendant cette nouvelle épopée, on va découvrir un lieu des luttes au pluriel. Un lieu où s'invente une autre manière de vivre. Un lieu d'expérimentation écologique et sociale qui prône un modèle en totale autogestion et une gouvernance horizontale.
Depuis plus de 12 ans, des centaines de personnes se battent pour sauvegarder ces dernières parcelles maraîchères de la ville qui menaçaient d'être remplacées par, tenez-vous prêts, un éco-quartier. On ne vous fait pas un dessin, mais c'est un projet bien bétonné.
On s'est dit qu'il y avait encore une fois beaucoup de points communs, dans les modes d'organisation, dans le désir de défendre un monde plus responsable et soutenable aussi.
Mais attention, on se rend bien compte que les manières sont bien différentes, on ne va pas se mentir. Beaucoup moins conventionnelles, ça c'est sûr, et avec un autre rapport au pouvoir et aux institutions.
Et je dirais même plus engagé sur la question des genres. Ça, il n'y a vraiment pas photo là-dessus. Alors, avec Camille, Hassan, Nico, Nata, Tisha, Morgane et bien d'autres encore, préparez-vous à sortir des sentiers battus. Voilà, voilà, tout juste arrivé à Dijon Centre. On longe l'allée des platanes, jonchée de maisons de maîtres. Et je vois pas bien où ça pourrait être d'ailleurs ce quartier des Lentillères. C'est quand même pas trop le style que j'imaginais.
D'un coup, c'est plus du tout la même ambiance. Bon, on fait quoi là ? On se faufile dans ce terrain vague ou on attend encore là devant ? Regarde devant toi, tu vois pas cet immense bâtiment à la charpente magnifique ?
Non mais waouh ! Non, c'est canon, c'est vrai. Alors, excuse-moi par contre, parce que il manque juste les fenêtres. On n'est pas sous les sunlights des tropiques ici. Hein. Sous les sunlights des tropiques. Bon, en tout cas, ça ressemble un peu plus à un chantier participatif, j'avoue.
Bon, ben moi j'ai besoin d'en savoir un peu plus sur où on se trouve quand même.
Ben, Nico du jardin des Lentillères, du terrain de BMX. Moi, je suis arrivé en 2014 dans le quartier et j'ai vu ce terrain complètement accidenté devant chez moi et je me suis un peu installé en 2016. J'ai commencé à faire des bosses ici en 2016. Moi, quand je me suis installé ici, j'ai été demandé l'autorisation aux Lentillères pour venir m'installer ici, en fait. Au préalable, j'étais voir des gens du jardin et ils m'ont dit « Ben, vas-y, hein, installe-toi, fais un peu ce que tu veux. Hein. » Le terrain était vraiment accidenté, il y avait beaucoup de gravats, donc on a tout nettoyé, j'ai fait 2 ans de nettoyage ici. À enlever toutes les poubelles, tous les gravats, et pour que ça soit utilisable et qu'on puisse rouler dessus, quoi. On a les gamins du quartier quand même qui viennent, Sohan qui est là, qui vient tous les jours après l'école, puis il vient rouler. Puis des gens qui viennent ici de l'éco-quartier, qui viennent un peu avec leurs gamins se promener. Les gens d'Abriou, les vieux harkis d'Abriou qui viennent se promener aussi. Les mamies du quartier qui viennent prendre l'air ici. Ici, il y a quand même beaucoup de passages, quoi.
Et ben, on est dans la cabane du potager collectif des Lentillères, le pot de colle, qui est une des premières cabanes qui a servi d'abri pour permettre la mise en place de ce potager qui fait 3000 mètres carrés à peu près et qui, comme son nom l'indique, est un potager collectif où chaque année, il y a une nouvelle équipe qui se met en place et qui le fait vivre pour assurer une production potagère et s'auto-alimenter en partie. Et moi, je m'appelle Nata et je connais le quartier depuis quelques années, depuis qu'il a commencé, depuis 2010. J'y ai habité pendant 7 ans et je n'y habite plus. J'habite à côté, à l'espace autogéré des tanneries. En mars 2010, donc, il y avait une manifestation qui avait été appelée Fourche en main pour libérer les terres. C'était comme ça que ça avait été appelé. Et c'était à l'initiative de différents collectifs, associations, personnes qui s'étaient rassemblées pour proposer l'occupation de terres, qui était quelque chose qui se faisait peu ou qui était à l'époque. Depuis, il y a eu toute l'occupation à la ZAD de Notre-Dame-des-Landes qui s'est fait connaître. Mais nous, on avait peu d'exemples de choses similaires, si ce n'est l'imaginaire plus lointain des mouvements des sans-terres au Brésil, des zapatistes au Mexique. Mais en tout cas, on avait peu d'expériences connues ou que nous, on connaissait à cette époque-là. Et l'idée, c'était de venir occuper cette parcelle de terre, la défricher, parce qu'elle était en friche, et y installer un potager collectif pour permettre des rencontres et se réapproprier un peu d'agriculture dans une zone urbaine. Et ça a été un peu ça qui a été le début de l'aventure. Et dans ce début-là, il y avait des personnes de l'espace autogéré des tanneries. Il y avait des personnes qui étaient regroupées au sein d'une association étudiante qui se préoccupait de questions environnementales et écologiques. Il y avait des anciens maraîchers de la zone. Et puis, les faucheurs volontaires. Alors, j'ai plus toute la liste en tête, mais voilà, tout un tas de personnes et collectifs qui se préoccupaient de la question agricole en milieu urbain. De cette alliance, il y avait d'une part des squatteurs urbains qui avaient plutôt l'habitude de squatter des bâtiments pour y vivre, proposer des activités politiques éventuellement, cette culture un peu squat. Et puis d'autre part, des gens plus préoccupés par la question de l'accès au foncier pour des gens qui voudraient s'installer pour une agriculture paysanne. Et que c'est sûr que le pas de l'occupation, elle a occuper illégalement donc des terres qui nous appartenaient pas, il n'a pas été franchi par tout le monde au sein de ce collectif. Il y a des gens qui sont distanciés à ce moment-là, assez peu de personnes à vrai dire, mais quand même quelques-unes. Mais elle a été aussi, c'est un peu comme une évidence pour plein de gens de se dire réapproprions-nous des terres pour en faire quelque chose qui appartient un peu aux gens qui les cultivent un peu, avec aussi pour certains en toile de fond ce slogan « La terre à ceux et celles qui la travaillent et qui la cultivent », qui est un slogan de la révolution mexicaine et espagnole ensuite.
Moi, c'est Marielle. Je suis arrivée par d'autres biais, puisque j'étais au départ militante pour d'autres projets, d'autres assos, etc. Donc, j'étais proche de plusieurs mouvements, écolo aujourd'hui, mais voilà, et qui s'étaient en fait regroupés pour essayer de préserver ce bout de terrain. Et quand on a voulu occuper le terrain, donc c'était le 28 mars 2010, on est arrivé, on a fait une manif avant avec Tu vois, des fourches, des fours, enfin des outils de jardinage. Et puis, on est venu ici pour défricher le terrain, parce que le terrain, il avait été, il n'avait pas été cultivé depuis mais des années. Et c'était vraiment une grosse friche. T'avais des ronces, ça poussait dans tous les sens. Donc, c'était vachement impressionnant. J'ai encore des photos, tu vois, de ce moment-là, où on était 200 à vraiment, complètement défriché, enlever tout ce qui était tous les végétaux, tu vois, les ronces, les trucs comme ça. Déjà, moi, il y a un truc qui m'avait quand même marqué quand il y a eu la communication autour de ce qu'on appelle une écocité, où on ne sait pas vraiment en fait si c'est une écocité, mais ce qui m'avait marqué, c'est qu'on récupère le nom Jardin des Maraîchers. Si tu veux, ça pour moi, ça a été un truc où je me suis dit waouh, tu vois. C'est-à-dire décider de nommer un écoquartier qu'on prévoit pour remplacer un vrai jardin et de vraies terres maraîchères et de le nommer Jardin des Maraîchers. J'ai trouvé que là, quand même, il y avait une récupération qui était assez forte et qui avait une forme d'instrumentalisation, quoi, de manipulation, et promettre à des gens qu'on allait leur faire des jardins à l'intérieur des bâtiments et que ces jardins pouvaient éventuellement être cultivables, etc. Ça m'a quand même beaucoup choquée, parce qu'aujourd'hui, quand on voit les zones qui ont été construites, que vous avez dû voir, ben, en fait, les jardins, ils n'y sont pas. Et il n'y a pas la zone maraîchère. Et en fait, ce qui se passe, ben, vous l'avez vu par exemple sur le terrain de BMX, c'est que les gens qui habitent aujourd'hui dans ces nouveaux bâtiments, en fait, ils viennent ici. Ils viennent ici pour voir des plantes, des arbres, d'autres gens, pour emmener leurs enfants faire du BMX, pour participer aux festivités. Il y en a ce soir. Enfin, et voilà, donc je me dis qu'en fait, là, on voit clairement que ces terres maraîchères, elles ont aussi une utilité. Enfin, c'est à la fois les insectes, les animaux, les arbres, les herbes, les fleurs. Moi, je travaille beaucoup avec les végétaux, donc les végétaux, mais aussi les humains, quoi, les gens qui sont sur le terrain. Et je trouve que ce genre de terrain, mais ici ou d'autres lieux de ce type-là, qu'on appelle ZAD ou qu'on appelle autrement, mais qui sont quand même des lieux de vie, ben, il y a quand même tout intérêt à les préserver.
Eh ben dis donc, faut se dire qu'ils se sont quand même sacrément bien retroussé les manches, les amis, hein, parce que pour en arriver à ce résultat-là aujourd'hui, je suis quand même franchement bluffée. Après, l'idée, c'est de se mettre d'accord. Et bon, il faut croire qu'ils ont réussi à se mettre OK sur les grands principes et qu'ils avaient envie de vraiment sauvegarder quelque chose ensemble, en fait.
Ouais, et en quelques années seulement, ce lieu est devenu un véritable repère de la ville pour bon nombre de Dijonnaises et Dijonnais. Et pas que.
Tout ça grâce à l'engagement farouche de plusieurs centaines d'habitantes et d'habitants qui ont défendu cet écrin de verdure, mais alors bec et ongles, hein, pendant tout ce temps.
Et regarde-moi ça, toute cette abondance, quand tu vois ces jardins potagers, les vergers, il y en a de partout. Moi, ça m'impressionne. Des aubergines à gauche, des tomates à droite, des courges, des betteraves. Regarde-moi la couleur de ces salades, ces cerises, ces poires, ces pommes.
D'ailleurs, t'as retenu la devise du coin ou pas ? La terre appartient à ceux qui l'entretiennent et qui la cultivent. Et ben moi je dis, ça devrait être plus souvent comme ça.
Par contre, le projet d'éco-quartier, beaucoup moins. Tu peux me dire comment on peut penser à couler des tonnes de béton et raser des zones cultivables et cultivées en pleine ville aujourd'hui ?
On est d'accord, c'est complètement aberrant aujourd'hui de voir ça. Surtout quand tu sais que, dans les villes, on a une autonomie alimentaire complètement ridicule aujourd'hui par rapport à avant.
Bah forcément, on a remplacé ces zones par des centres commerciaux, des éco-quartiers, des bureaux. Mais heureusement, en 2019, François Samaine, le maire de Dijon de l'époque, a abandonné le projet de construction. Grâce à la défense du quartier libre des Lentières, justement. Ils n'ont rien lâché.
Tu m'étonnes. Et d'ailleurs, en plus de redonner vie à ces parcelles vivrières, tu sais que le collectif, il accueille depuis plusieurs années des personnes migrantes. Donc en fait, les jardins potagers se sont transformés en véritables quartiers-villages d'entraide.
Si tu avais trois mots à nous dire pour décrire cet endroit.
Famille, accueillant, je trouve extraordinaire.
Autonomie. Bon, moi j'aime bien y mettre le mot de lutte. Et je sais pas, de diversité peut-être.
Poésie. Liberté et sauvage.
Je m'appelle Clémentine, Ça fait 2 ans que je fréquente le quartier. J'aide pendant les fêtes, je fais un peu de maraîchage et j'ai fait beaucoup de dessins parce que j'étais aux Beaux-Arts et c'est comme ça que j'ai découvert le quartier. Et j'ai fait un diplôme de fin d'études autour du quartier libre des Lentillères sur comment ça marche, qu'est-ce que c'est, sur quoi ça repose. Et j'ai entre autres fait des dessins pour parler de tout ça. Je suis en design d'espace aux Beaux-Arts et à Dijon, c'est design d'espace plutôt public, faire la ville et souvent dans des projets très ancrés dans un contexte avec des gens et donc avoir un peu si on a un rôle de designer, ce serait celui de faire un peu le lien entre les gens qui savent construire des choses, les gens qui ont envie de faire des choses et du coup être en contact permanent avec plein de gens. Et quand j'ai dû écrire mon mémoire pendant mes études, je me suis intéressée à tous les modes d'occupation de l'espace urbain et autres d'ailleurs, comme moyen pour des gens qui sont pas motivés par des architectes, des urbanistes, des designers, pour se réapproprier un lieu, pour l'habiter, pour revendiquer des choses, etc. Et donc j'ai fait une sorte de mémoire où j'ai regardé plein de choses qui s'étaient faites ou qui se font actuellement dans des lieux comme des squats, comme aux tanneries, ou des choses qui se passent dans la rue, comme ce qu'il y a eu avec Nuit Debout, et ce qui se passe aussi au niveau de l'échelle des ZAD et comme au quartier libre des Lentillères. Je pense qu'il m'a marqué, c'est le fait que, évidemment, c'est dur, évidemment, c'est compliqué, il y a plein de gens qui parlent des langues différentes, qui ne sont pas concernés par les mêmes choses et qui ont des expériences et des cultures différentes. Mais ce que je trouve génial ici, c'est que les gens, ils essaient de faire plein de choses, et que ce soit au niveau de l'égalité au niveau des genres, de la représentation des gens, de la traduction des langues, du lien entre les gens qui sont plus habitants ici et d'autres militants. Et le fait que c'est pas parfait, mais que les gens, au moins, ils essaient. Et ça, j'ai trouvé ça vraiment génial. Et en tant que fille, par exemple, sur le quartier, qui s'habille de manière je sais pas trop comment, et je me suis sentie vachement bien ici, et ce qui a fait que quand dans la ville je me sens vachement d'un point de vue personnel dans le besoin d'être bien habillée par exemple, et du coup ça me met dans un mode différent en fait de relation avec les gens, d'apparence en fait et de paraître et de comportement, ici je l'avais pas du tout et on passait directement aux gens, en fait, et aux discussions, et à faire des choses ensemble.
Bah ouais, c'est sûr qu'on pourrait dire que notre matrice politique ou notre envie, elle se situe à l'endroit de l'autogestion et à l'endroit de la construction d'un quartier par celles et ceux qui le font vivre. Et ça se traduit concrètement par des assemblées, par tenter que la plupart des décisions, en tout cas des décisions engageantes, et pour la vie et pour l'avenir politique de ce lieu passe par des assemblées. Il y a deux principales assemblées. Il y a l'assemblée du quartier qui a lieu une fois par mois, qui permet la bonne gestion administration, si on voulait le dire dans les termes habituels de cet endroit. Donc vont être débattues toutes les questions vie quotidienne, réseau, attribution des parcelles, conflits, comment on rend des formes de justice, ou en tout cas comment on s'entend, comment on s'engueule, mais finalement on arrive quand même à être ensemble, comment on organise la fête du quartier, tout ce qui concerne la gestion quotidienne de la vie sur un endroit qui fait 8-9 hectares avec une petite centaine d'habitants et des centaines de personnes qui le traversent. Et puis il y a des assemblées de défense du lieu, des assemblées de lutte qui permettent de mettre en place les principaux jalons stratégiques de ce qu'on a envie de défendre et de s'organiser sur une stratégie collective pour se débattre dans ce monde plutôt hostile en fait aux formes de réappropriation autogestionnaire de la vie et de nos décisions. Mais bien sûr, c'est imparfait. Bien sûr, on a tellement été dépossédés de la chose politique et de la décision que le reconstruire, ça demande beaucoup d'efforts. C'est fatigant, épuisant. Il y a plein de moments où c'est dur. Mais malgré tout, quand même, il y a cette envie de continuer comme ça. Et après, aussi, ce que je n'ai pas dit, c'est que j'ai présenté les assemblées dans la volonté d'organisation un peu qu'on a, mais toutes les décisions ne passent pas par les assemblées. Il y a tout un tas de décisions qui sont déléguées au collectif, qui concernent le cadre de vie. Ce n'est pas non plus l'organe suprême de toutes les décisions à tous les endroits de la vie personnelle et dans d'autres sphères de l'ordre d'un collectif qui vit ensemble, il y a d'autres décisions qui sont prises. Voilà.
Moi, c'est Morgane et j'habite ici depuis plusieurs années. Je fais partie des gens qui étaient là aussi au tout début des Lentillères en 2010. Ça demande énormément de réflexion, de savoir comment prendre des décisions. Déjà, à plein de personnes qui sont pas d'accord, c'est une chose. Mais ça, on arrive quand même à le faire et à le travailler. Mais ensuite, à le faire avec à plein de personnes qui sont pas forcément d'accord, mais qui parlent pas la même langue et qui se croisent, enfin, pas forcément dans ces réunions, c'est autre chose, et que là, plutôt, on s'empare pas de ce problème-là. Et je pense que c'est pour ça que moi, je suis attachée au fait, c'est que j'ai l'impression que c'est un des moments où peuvent le plus s'exprimer un moment de vivre ensemble et de croisement de plein de diversité et de manière d'être ensemble, à se redécouvrir, parce qu'en fait on se connaît, mais et nourrir ça et nourrir la confiance aussi, sentir que voilà, on continue d'être attachés les uns les unes aux autres, et on est attachés les uns les unes aux autres parce qu'on est attachés à ce lieu, aux Lentillères. Et que pour moi, la fête des Lentillères, c'est un moment pour réaffirmer ça et pour ressentir de nouveau cette forme de communauté.
D'ailleurs, en parlant de fêtes, j'ai une surprise pour toi.
Ouhou.
Tu sais que ce week-end, il est un peu spécial. C'est-à-dire que ici aux Lentillères, ils font un gros temps fort pour fêter l'arrivée de l'automne et du printemps. Et qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qu'on a au programme? Alors évidemment, tu me connais, hein, j'ai un peu creusé le sujet, j'ai mené l'enquête. Il y a un grand banquet avec plus de 200 personnes demain soir, des visites guidées dans le quartier, des cours de danse populaire, un concert de bal trap, des DJ sets. Enfin, tu vois, en gros, on va pas s'ennuyer, quoi. Il paraît qu'il va y avoir de la bouffe touareg. J'adore. Il y a d'ailleurs une grosse communauté dans le quartier, donc c'est eux qui sont à la manœuvre. Attends, mais tu sens cette petite odeur là qui te titille le nez? Ah oui, je la sens bien, 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 mais ça vient d'où ça? Ah mais attends, mais je vois une espèce de fumée là-bas, juste à côté du terrain de BMX. Attends, mais faut qu'on s'approche. Mais il y a une sorte de tête de cochon là, ça ressemble à... Ça ressemble au Fournil! Mais, c'est le fou Fournil! Tu sais, Vincent nous racontait qu'ils ont créé ça à quelques potes qui faisaient du pain chez eux à la base, et puis ils ont décidé de monter ça ici, avec un Fournil qui était dans le quartier pour le kiff. Ah mais oui, bien sûr! C'est eux qui vendent en fait le pain sur le fameux marché des Lentillères qui a lieu tous les jeudis soirs de 17h à 19h, c'est ça?
Oui, voilà. Et le concept, c'est tout à prix libre. T'imagines, par le temps qui court, c'est extra quand même. Tu payes ce que tu peux, il n'y a que des bons produits qui poussent ou qui sont faits dans le quartier. Tu peux trouver des légumes, des cosmétiques, du pain, des jus, même des gogoches et de la bonne ambiance.
Dommage, alors on l'a loupé parce qu'on est arrivé vendredi. Bon, mais sinon, qu'est-ce que ça te dit là d'aller goûter ce petit pain qui me donne envie toujours?
Ah bah bien sûr, allons-y.
Eh bien là en fait on a pris la pâte à brioche, on a fait des petites boules, donc on a fait une mise en boule, qu'on a mis dans des moules, et ça va faire des brioches, ce qu'on appelle des brioches nanterres, donc ça va donner cette forme bombée de petits rebonds, de petites montagnes sur la brioche. Et du coup on la met en moule, on va laisser ça encore pousser à l'air libre pour que la pâte commence à gonfler un peu. Et ensuite on va enfourner quand le feu sera prêt. Voilà.
Moi c'est Camille, Et on est à la partie sud-est du quartier des Lentillères, sur la petite place devant le Foufournil, qui est donc notre atelier de fabrication de pain. C'est notre petite boulangerie de quartier, pain, brioche, pizza. La revendication de dire notre pain est politique, c'est que c'est la brique élémentaire de la nourriture, notamment pour une part de la population moyenne, quoi. Et en même temps, c'est pas juste un aspect anodin d'acheter du pain. C'est qu'est-ce qu'il y a aussi derrière? Qu'est-ce que c'est tous ces savoir-faire? À qui est-ce qu'on les dédie? À qui est-ce qu'on les cantonne? Est-ce qu'on se les partage? C'est ça aussi notre pain politique, quoi. C'est on mange et d'où vient ce qu'on mange et comment on s'organise derrière et quelle valeur découle et à qui ça bénéficie, tout ça. C'est un espèce de jeu auquel on s'adonne volontiers. Mais c'est aussi, effectivement, comme tu dis, c'est un prétexte de comment on fait ensemble quelque chose, comment on fait œuvre commune. Nous, ça s'est trouvé que c'était le pain qui nous parlait, mais l'esprit du quartier sur lequel on est, c'est reprendre en main la vie sous bien des aspects, et que ce soit une organisation pour s'alimenter, pour s'éduquer les uns les autres, pour partager de l'art, des émotions, de la connaissance, de la prise en main sur des aspects de la vie, enfin très très variés, et revendiquer des espaces qui s'organisent ainsi au sein, en pleine ville. C'est aussi cette bulle est complètement atypique de ce côté-là. Et avec des populations très différentes qui peuvent se côtoyer, se rencontrer et s'organiser ensemble.
Non mais c'est une tuerie ce pain. Et le pain d'épices, je t'en parle même pas.
En tout cas, moi j'ai vraiment adoré ce moment avec eux, tu sais, quand on était posés devant le Fournil, à nous faire payer du pain et du fromage et refaire le monde sur les palettes, arranger un petit salon de chill.
C'est clair. Et tu sais que depuis peu, ils vont encore plus loin dans leur principe d'autosuffisance. On m'a dit qu'ils allaient faire pousser du blé sur une parcelle juste à côté des Lentillères. On ne peut pas être plus local, là.
Tu sais aussi que le pétrin, d'ailleurs, il se fait en mode collectif. Ils font ça le mercredi soir, veille du marché. Qui veut vient. Il y a plein de gens qui viennent des Lentillères, mais pas que. Des voisins, des voisines aussi. Et tout le monde est bienvenu. Bon, après, il faut quand même ramener tes biscottos, hein, je te préviens.
Moi, j'ai quand même envie d'ouvrir une petite parenthèse sur leur nom, quand même, non?
Ah, le Foufournil.
Foufou dans ta bouche.
Ah non, mais c'est juste brillant comme nom, hein. J'adore. Et leur petit slogan qui va avec. On en foufourne tout dans ta bouche.
Foufou dans ta bouche. Bon, moi ça me dit bien d'enchaîner avec une visite du site avec Ness. Puisqu'on est si bien lancé, ma chère, attrapons-le, il est juste devant nous.
Bonjour. du coup, Ness, du quartier des Lentillères, voilà. On va faire une petite balade avec deux amis, là, qu'on vient de rencontrer récemment. C'est la prairie du Ginkgo ici. On a fait printemps dernier, on a fait une fête ici. Il y avait un réfectoire et une cantine derrière. Et même ça sert de scène de concert aussi. Et là, c'est un grand parc arboré. Il y avait une belle maison en fait qui a été détruite par les gens de la mairie. Bah oui, ils ne voulaient pas qu'on habite. Mais on a continué d'habiter. On ne s'est pas défait. On a continué. Là, il y a une bambouseraie qui sert bien. Là, on fait des poteaux de tomates, des piquets de tomates et des piquets de grève et de manif. Plein de choses. Et un bateau pirate qui représente un peu le quartier en tant que tel. Et quand il y avait le confinement, on faisait projeter des films ici, à 20h, quand les gens applaudissaient. Au balcon, nous, on était là, on disait 1, 2, 3, ça va commencer. C'était un peu un cri cathartique pour dire on est là, on quittera jamais ce quartier, un peu. Des morceaux de charpente qui ont été ramenés là pour faire des jeux pour enfants aussi. Tout ce qu'on peut trouver d'intéressant, on le garde et on refaçonne, on le reconstruit, on le transforme pour en faire quelque chose d'encore plus beau. Y a rien ne se perd, tout peut servir ici. Eh oui, tout se transforme. on déambule, on se perd un peu. Donc là, on est sur une... on revient vers la prairie un peu, là, on se promène. Voilà, et c'est un paysage ouvert, avec des grands arbres partout. C'est vrai que la nature ici, c'est elle qui... Nous, on est de passage. Elle est là, elle reste, et on essaie de la défendre. Là, on est au Ronce, par exemple. C'est un lieu d'habitation qui est polymorphe, avec des maisons en paille, terre paille, des maisons en bois. Voilà, ça, c'était une roulotte qui a été aménagée. Voilà, et une yourte aussi à côté. Et des vieux arbres, là, des vieux arbres fruitiers qui étaient là bien avant nous. Il y a du sureau, il y a du lilas. Ah, on peut aller par là, tiens. On n'est pas allé encore. C'est bizarre comme la nature a... C'est le même endroit que derrière nous, hein. C'est un verger pareil. Mais par contre, là, on l'a laissé tranquille. Donc du coup, petit à petit, il n'y aura plus que le chemin, quoi. Et là, quand tu viens au printemps, là, tous les lilas sont en fleurs et ça sent merveilleusement bon. Ici, là.
Il y a vraiment un truc très poétique, effectivement, dans cet endroit. Et à la fois quelque chose de très brut, tu vois, de décoffrage un peu. On laisse la nature reprendre ses droits à certains endroits. Et dans d'autres, on l'apprivoise, on la cultive. Il y a des habitats aussi un peu disséminés partout. Des baignoires en guise de douche d'extérieur, d'ailleurs, mais bon.
Oui, je prends l'idée pour mon jardin. Et au fil du temps, c'est vrai que les habitants ont pas mal évolué, on m'a dit. Au départ, avant que le projet d'éco-quartier ne soit abandonné, c'était plutôt des caravanes, des camions, des cabanes, dans l'endroit qui était encore un peu une friche. Et aujourd'hui, il y en a qui construisent carrément leur maison, avec de la récup, des matériaux naturels, ça donne un truc, comment dire, assez original quand même.
Et d'ailleurs, tu sais, ils ont une espèce de matériothèque. Il y a plein de gens qui viennent déposer des choses dont ils se servent plus, des fenêtres, parfois des trucs complètement aberrants. Et eux, ils se réservent de tout ça. Ici, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme, comme disait mon père.
Et puis ici, c'est les odeurs aussi qui se mélangent. Il y a des oiseaux partout, on entend le bruit du vent dans les arbres. Tu sens que la biodiversité foisonne. Et c'est aussi un lieu où ça vit, où l'on préserve autre chose que la végétation, le maraîchage. On apprend à faire société différemment et à prendre soin du vivant. Au fait, j'ai croisé Tisha tout à l'heure, en plein baltrap. Tu sais, elle dort avec nous au squat des tanneries, juste à côté des lentillères. Elle vient tout droit de Montreuil, rien que pour ce week-end. Et je me demande vraiment ce qu'elle est venue chercher ici.
Bah, du coup, je m'appelle Tisha. Je suis une meuf trans de 30 ans. Et ouais, je suis une... Enfin, qui vient du coup de Paris et qui milite pas mal à Montreuil. C'est pour ça que je suis venu ici, parce qu'avec avec des copains de Montreuil, on s'intéresse un peu à ce qui se fait, notamment aux lentillères, quoi. En fait, ce que je trouve intéressant, c'est de voir comment... de l'image que je m'en construis, là, de ce qu'on m'en a raconté, de voir comment ça s'est agrégé petit à petit, comment... Enfin, c'est pas des gens qui... C'est pas des totos qui sont arrivés avec un plan d'urbanisme anarchiste, quoi. C'est pas une espèce de... Ouais, c'est pas en arrivant avec un grand plan que t'as réfléchi dans ta tête et puis ensuite c'est bon, il suffit de le mettre en route. C'est un truc qui s'est vraiment co-construit, qui s'est petit à petit aussi structuré en fonction des gens qui venaient, en fonction de leurs envies, de leurs besoins, des possibilités. Et ça, je trouve que c'est un truc qui est assez riche comme expérience, hein, de voir que... Ouais, de pas commettre cette erreur-là, de croire qu'on peut... tout seul et toute seule, à l'avance, décider d'un truc, mais juste accepter que c'est un truc qui se fait sur le temps long, que ça se fait aussi progressivement, que ça se fait avec les gens qui vont s'investir ou non dans le... Enfin, qui vont s'investir, qui vont peut-être se désinvestir aussi. Enfin, j'imagine qu'il doit y avoir pas mal d'allées et venues, de personnes qui étaient très motivées, puis qui finalement sont organisées ailleurs ou ont arrêté. Enfin, avec des allers-retours un peu comme ça. Moi, c'est un peu ça que je retiens, c'est comment... Ouais, c'est pas un truc qui peut se construire par le haut.
Je m'appelle Abakar Mahmoud Hassan, je suis de la nationalité tchadienne et je suis arrivé en France en 2013 à l'âge de 16 ans et demi. Du coup, ça fait aujourd'hui 10 ans que je vis en France. Moi, je trouve un endroit extraordinaire. Je trouve un endroit, je trouve un endroit très bien parce que un endroit accueillant tout d'abord et comme on dit, quartier libre. Tout le monde est libre. Et une fois que t'es au lentière, t'es libre. T'es dans la zone libre, quoi. T'es dans la zone libre et tu fais ce que t'as envie. Et Et tu peux en parler avec des gens, tu peux faire des événements et tu peux participer aussi de prendre d'autres choses par rapport à la construction de la maison ou faire les jardins et récolter aussi légumes, tout ça. Et du coup, moi, je trouve que c'est un endroit commun et un endroit qui ont l'amour d'amitié et tout ça. Je trouve que c'est un endroit très, très cool.
J'aime bien ce que nous racontait Tisha tout à l'heure sur l'importance de créer des ponts entre les lieux. Tu sais, ça me rappelle d'ailleurs ce qu'on disait au début de notre projet. Tu te souviens ?
Bien sûr que je me souviens. On voulait créer une cartographie, une toile qui relierait différents lieux entre eux pour créer du maillage et faire en sorte qu'ils avancent groupés. Ça me semble quand même hyper important, non ? Ne pas rester quand même seul ancré sur son territoire.
Exactement, ouais. Et puis tu sais, tout à l'heure, il y avait aussi Hassan qui parlait d'un truc, et ben, c'est l'accueil inconditionnel. Et ça, on en a aussi souvent parlé dans nos périples, parfois avec un petit vœu pieux. Parce que c'est pas toujours facile à mettre en place, clairement, et ici, je crois qu'il y a un truc, je sais pas, différent pour moi.
Ah bon ? Quoi donc ?
Bah, je te le disais plus tôt, tu sais, mais en fait, la question des genres, la question ethnique aussi, c'est un sujet central ici, et ça se voit, mais directement, je trouve. Et tu vois qu'ils y mettent une attention toute particulière, et c'est assez bien réussi. Alors c'est dur parce que je pense qu'il y a des moments où c'est pas forcément fluide, parce qu'il y a plein de gens différents et... En tout cas, ils essayent.
Oui, ici on doit donner une place à tout le monde, peu importe d'où tu viens et qui tu es. Et là où je te rejoins, c'est que pour moi, le rôle de ces lieux, mais aussi des tiers-lieux, c'est de déconstruire ces questions d'identité, de genre, qui sont quand même partie intégrante des enjeux de notre siècle.
Et ça, ça se vit à l'intérieur du lieu. Mais il y a aussi une sensibilisation de tous les publics qui sont ici et qui passent ici. Rien qu'à la fête d'hier soir, tu te rappelles, tu vois, il y avait ce qu'ils appellent une team anti-relou. En gros, c'est une équipe qui est chargée pendant toute la soirée d'être à l'écoute et en soutien des personnes qui pourraient se sentir soit heurtées, brusquées, pas respectées, voire même malheureusement abusées.
Ça, c'est vraiment génial. On devrait avoir ça tellement plus souvent, en fait. Et la suite, alors ? La suite du projet ?
Alors, trois mots. La créativité, je sais pas, cette permanence d'idées et d'énergie à la mettre en œuvre et comme un grand terrain de jeu et où c'est assez un imaginaire débridé dont on à chaque fois c'est possible en fait, tu sais, juste donc la créativité, l'énergie, et il m'en manque un troisième, quelque chose autour de un truc de terme qui dirait basique, essentiel, enfin je sais pas. Ces choses à la fois simples, à se réapproprier ça tous ensemble.
Moi, j'ai bon espoir que ce lieu, il continue à être en lutte. Des luttes, il y en a plein à mener, qui continuent avant tout aussi à être un lieu d'organisation pour plein de gens et pour plein de dynamiques. Et c'est un peu le pari qui est fait, je pense, à travers cette forme de régularisation et de pérennisation. C'est de se dire, en fait, des espaces comme ça, on n'en a pas beaucoup. Ils sont précieux.
Je m'appelle Jessica et j'habite 300 mètres d'ici, là, derrière le pont. Ça fait 4 ans. Et donc, du coup, je fréquente les lentillères plusieurs fois par semaine, en fait. Alors moi, je serais super triste si ça devait disparaître. Bah, super triste parce que, voilà, égoïstement, j'y vais tout le temps, mais super triste aussi... D'une manière plus générale, je trouve que c'est vital qu'il y ait des endroits comme ça, en fait, où à mon sens, c'est un espace de liberté et un espace de liberté pour la nature, j'ai envie de dire avant tout, mais aussi un espace d'expression. Moi, j'ai l'impression de vivre, de rencontrer des choses ici que j'ai vécues dans mon enfance quand j'ai grandi à la campagne, en fait. Hier, quand je voyais les gens danser, c'est ce que je vivais quand j'étais enfant et qu'on faisait les feux de la Saint-Jean. Voilà. Et c'est des choses que je ne vois pas en ville, en fait, où tout est quand même très normé, très codifié.
Et oui, malheureusement, le combat continue pour le quartier. Et ce serait vraiment dommage de raser ce terrain de BMX où tellement de jeunes du quartier et des alentours ont trouvé refuge. C'est devenu un vrai terrain d'expression.
Ouais, puis il faut pas oublier qu'il y a aussi le Foufournil ici, hein, donc c'est hyper important. Et d'ailleurs, notre cher guide Ness, il nous disait tout à l'heure qu'il envisageait lui de construire sa future maison sur cette zone qui est encore à défendre, puisqu'il disait que c'est en vivant sur le quartier qu'on le défend.
Ah, sacré Ness, hein. Il ne fait pas les choses à moitié, celui-là. C'est le moins qu'on puisse dire.
Je crois que l'équipe veut même aller plus loin. Ils sont en train d'étudier un projet qui s'appellerait une zone d'écologie communale.
Une quoi ?
Une zone d'écologie communale, c'est un endroit où tu vas développer, en gros, une protection de la biodiversité très renforcée.
Et communale, alors ?
Parce que, en termes de propriété, ça va être un truc qui est commun, en fait. C'est pas ni privé, ni public, c'est commun.
Ouais, comme les rivières, l'eau, les chemins, j'ai pas mal lu ça ces derniers temps.
Exactement, ça revient un petit peu, mais c'est encore très peu connu quand même. Et je crois que les discussions sont ouvertes avec la ville, mais que c'est pas encore gagné-gagné.
De ce qu'on me dit, j'entends souvent des personnes qui sont assez apaisées en venant quand elles arrivent aux Lentillères et qui sentent ça dans le rapport au temps. Et moi qui vis et m'organise ici, je suis en course permanente parce que s'organiser à plein de gens nécessite énormément de discussions et de soins. Prendre soin de soi, de son collectif, de sa communauté, des gens qu'on croise, prend énormément de temps. Et aussi essayer de repenser un rapport à l'autonomie matérielle où on décide de prendre en main les choses nous-mêmes et ne pas les reléguer à des services qu'on paye ou qui font les choses pour nous, implique de repenser tout son rapport au temps d'une manière qui est extrêmement complexe finalement, où au début on a envie d'être autonome, de tout faire soi-même. Et assez vite, tu te rends compte que c'est un fantasme qui est absolument pas atteignable. Et ça, quand tu commences à renoncer à l'idée de tout faire toi-même, tu te dis, peut-être par contre, on peut essayer de s'entraider et d'être dans un rapport d'interdépendance et que ce soit pas moi qui fasse tout moi-même, mais qu'on s'organise avec d'autres gens pour ça. Mais s'organiser avec d'autres gens aussi nécessite énormément de temps de discussion et d'organisation.
Alors, je sais pas toi, mais de mon côté, j'ai eu l'impression d'être dans une bulle spatio-temporelle ici. Un arrêt dans le temps.
Complètement. Et tous ces jardins, les uns à côté des autres, cette forêt en plein cœur de la ville, ça te coupe de la frénésie extérieure. Le temps s'arrête, littéralement, je suis d'accord avec toi.
C'est dingue hein, de se dire qu'il y a plus de 12 ans, il y avait strictement rien ici. Et c'est devenu un véritable trésor, ce quartier. J'avais jamais vu ça encore, tu sens qu'il y en a eu hein, des heures passées.
C'est vrai qu'il y a une vraie attention portée sur le soin aux gens, à la nature, à ces terres, à la communauté en fait en général.
Ouais, tu sens que le sujet de la mixité, du genre et d'identité sont pris réellement au sérieux comme on le disait. Et ça permet d'aller plus loin dans les questions de gouvernance et d'organisation je trouve. Beaucoup plus loin que dans certains tiers-lieux qu'on a déjà visités.
Tu trouves ?
Comme le disait Morgane, on n'est pas toutes et tous nés avec les mêmes bagages culturels et sociaux. Le même langage non plus. Donc faire des groupes de discussion, des assemblées pour prendre des décisions collectives, c'est cool hein. Mais ce n'est pas la solution miracle, faut pas se leurrer pour être totalement inclusif.
Mais je trouve que c'est aussi important, et ils le font ici, d'instaurer des moments de fête, de convivialité, où chacun et chacune peut plus facilement venir partager quelque chose comme une recette en famille, une danse, un morceau de musique. D'ailleurs, comme on a entendu les musiciens Touareg, l'autre jour, c'est juste chambé, quoi. Et toi, Anaïs, c'est quoi qui t'a marqué ?
Je t'avoue que les premières heures n'ont pas été évidentes. Tu sens qu'il y a quand même pas mal de méfiance au début. Mais en même temps, c'est normal, vu la violence qu'on a pu voir sur d'autres projets comme Notre-Dame-des-Landes. Mais une fois qu'on a baissé les barrières, tu te sens assez privilégié d'être ici. C'est une vraie alternative de vie qui est proposée.
En tout cas, j'espère que les discussions avec la ville de Dijon, qui sont en ce moment même en train d'avoir lieu, elles vont donner quelque chose de positif et que ce petit coin de paradis et la zone Est vont pouvoir être sauvegardés eux aussi.
Allez, c'est pas le tout, mais le temps passe et notre grande pilote Fanny nous attend pour le covoit de retour, je te rappelle. Et la connaissant bien, on va se faire engueuler si on se pointe pas à l'heure. Hein.
Oula, je m'y risquerai pas, hein, attention. Bon, les amis, on vous laisse et on vous dit à tantôt.
Et longue vie aux Lentillères. Ciao, ciao, ciao. Merci d'avoir écouté ce nouvel épisode de Tête Beaulieu. Un grand merci à François Touchard pour le mixage, à Hux et Michon pour les musiques originales, merci aux équipes d'Hôtel 71 pour le studio et bien sûr aux habitants et habitantes du quartier libre des Lentillères et des Tanneries de nous avoir accueillis pour ce séjour incroyable.
Si vous avez aimé ce podcast, faites-vous plaisir, n'hésitez pas à mettre 5 étoiles sur les plateformes d'écoute, ce serait un beau coup de pouce pour le projet. Et en attendant le prochain épisode, vous pouvez nous retrouver sur Instagram et LinkedIn. Vos remarques, recommandations, petits mots doux nous aident à avancer. Donc n'hésitez pas à nous écrire.
Salut, salut !